Festus, étant arrivé dans la province, monta trois jours après de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs portèrent plainte contre Paul devant lui. Ils firent des instances auprès de lui et, dans des vues hostiles, lui demandèrent comme une faveur qu'il le fasse venir à Jérusalem. Ils préparaient un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait partir sous peu. « Que les principaux d'entre vous descendent avec moi, dit-il, et s'il y a quelque chose de coupable en cet homme, qu'il l'accuse. » Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux, puis descendit à Césarée. Le lendemain, siégeant au tribunal, il donna l'ordre qu'on amène Paul. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Paul entreprit sa défense en disant « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. » Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul « Veux-tu monter à Jérusalem et être jugé sur ces choses en ma présence ?» Paul dit « C'est devant le tribunal de César que je comparais et c'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. » Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. » Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit « Tu en as appelé à César, tu iras devant César. » Et puis il y a le roi Agrippa, Hérode Agrippa, qui vient de passer quelques jours avec Festus. Et donc Paul va recomparaître encore devant ses autorités et porter sa défense, et nous reprenons la lecture en chapitre 26, verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « T'es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. » Le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent, et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Et Agrippa dit à Festus, « Cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à César. » Voilà, le livre des Actes est un livre d'histoire, et on aime ça, mais c'est aussi un traité d'évangélisation, c'est aussi une défense de la foi chrétienne. Et une des choses que Luc veut faire par ce livre, c'est montrer que la foi chrétienne, elle n'est pas illégale, elle n'est pas néfaste, elle n'est pas dangereuse pour la société. Et c'est pourquoi il accorde beaucoup de place à tous ces procès et ces tribunaux, notamment devant lesquels Paul va devoir comparaître. On a déjà regardé la semaine dernière, chapitre 24, Paul était devant Félix. Et puis chapitre 25, maintenant il se retrouve devant le successeur de Félix, qui s'appelle Festus. Et puis il y a une audience. Et puis après, en chapitre 25 et 26, il va se trouver encore une fois de plus une espèce de procès, de tribunal, cette fois-ci avec Festus et le roi Agrippa. Et puis, donc tout ça se passe à Césarée, la capitale de l'Empire romain en Israël, Césarée. Et puis le reste du livre, des chapitres 27 et 28, c'est son voyage à Rome, notamment pour encore un procès qui l'attend, cette fois-ci devant le grand juge, le grand tribunal, César. Et ce que Luc veut montrer dans tout ça, c'est que dans aucune autorité romaine, aucun tribunal a condamné Paul. La réaction, c'était toujours je vois pas le mal qu'il a fait. Et ça, c'est pour Luc, c'est ce qu'il veut mettre en avant pour la foi chrétienne, c'est la raison d'être de ces chapitres. Sachant que le souci de César et l'Empire romain, c'était de maintenir la paix. Vous savez, la gloire et la priorité, la force de l'Empire romain, c'était ce qu'on appelle la Pax Romana, la paix romaine. Et puisque les Romains, dans cet empire qui s'est étendu pas mal sur tout le bassin méditerranéen, ils ont réussi à faire quelque chose d'assez fort, ils ont réussi à maintenir une certaine stabilité, une certaine paix, et faire coexister tous ces peuples très différents, avec différentes religions, différentes pensées, mais ils ont réussi à les faire coexister pendant plusieurs siècles, une paix, une stabilité relativement forte. Par contre, ils étaient très méfiants et ils frappaient très fort contre toute influence qui pourrait fragiliser cette paix, cette fameuse paix romaine qui était leur gloire, leur force. Et la grande question que tout le monde devait avoir par rapport à cette nouvelle foi, cette nouvelle voie qu'annonçaient Paul et les apôtres, c'est que est-ce que cette foi pose tel problème? Est-ce que c'est criminel? Est-ce que c'est contre César? Et donc, d'où toute cette insistance ici dans ces chapitres sur l'empereur César, Césarée, pour montrer que ni à Césarée, ni à Rome, les autorités romaines n'ont jamais trouvé, en appliquant la justice, n'ont jamais trouvé rien à condamner Paul ou les chrétiens. Et je dirais que le principe de la Pax Romana, la paix romaine, rejoignent en quelque sorte notre principe de la laïcité aujourd'hui. Et tout ça invite un peu les mêmes questions pour le témoignage chrétien dans notre société, notre culture. Et la question que se pose tout le monde, parfois même nous les chrétiens, c'est est-ce que la foi pose-t-elle problème à notre société? Est-ce criminel d'être chrétien? Pendant des années, on aurait dit non, mais peut-être de plus en plus, la question se pose, est-ce criminel d'être chrétien? Est-ce que c'est une faute? Est-ce que c'est un tort de pratiquer sa foi, de témoigner de sa foi ouvertement? Est-ce criminel? Est-ce qu'il y a un tort de vouloir convertir les autres? Paul dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Est-ce que c'est une faute? Est-ce que c'est une faute grave là où on veut maintenir cet équilibre, cette stabilité, à faire coexister tout le monde? Et je dirais, tout comme dans ces chapitres, mais le défi majeur pour nous, notre témoignage chrétien en France, c'est toute cette question, comment témoigner dans une société laïque? Et on va s'inspirer de ces passages, de ces versets, pour voir les rapports de Paul avec César. César, qui représente aussi les autorités romaines. Voyons les rapports de Paul avec César. Comment il a navigué tout ça pour rester fidèle dans son témoignage. Nous allons voir ce qu'on peut en retirer, ce qu'on peut espérer pour notre témoignage chrétien. J'aimerais vous regarder ensemble que tout d'abord, Paul, il en a appelé à César pour le témoignage chrétien. Il en a appelé à César. Ensuite, il a témoigné à César. Ensuite, j'aimerais rappeler qu'il a été tué par César. Et enfin, j'aimerais rappeler qu'il jugera César un jour. Il en a appelé à César, il a témoigné à César, il a été tué par César, et il va juger un jour César. Tout d'abord, regardons ce fameux appel à César. Paul en a appelé à César, c'était un geste très fort. Et ici, Paul, en tant que citoyen romain, il exerce ce droit qu'avait tout citoyen romain, d'avoir son cas jugé par César lui-même. Il commence à comprendre qu'il ne peut pas vraiment espérer une véritable justice quand les choses se passent pas loin de Jérusalem, ni à Jérusalem, ni même à Césarée. Donc, il veut porter son cas devant César à Rome en espérant recevoir une justice. Le geste est risqué, Mais ça montre à quel point Paul savait que dans son âme et dans sa conscience, il était innocent de tout crime. Et voilà, la justice romaine, normalement, était assez performante. Et on voit même ici, il y a un souci de justice chez les autorités romaines. Et donc, Paul en appelle à cette justice, à César, pour montrer qu'il est innocent de tout crime. Et c'est ce qu'il a toujours dit dans son témoignage. Il dit, vous savez vous-même, rien n'a été fait en cachette. Je n'ai rien fait contre la loi, je n'ai rien fait d'injuste, d'illégal. Tout ce que je dis, c'est des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Telle est sa défense. Et nous aussi, c'est un grand privilège. Et ça fait partie de notre témoignage chrétien. Nous pouvons en appeler à César. Nous devons nous comporter de manière à pouvoir toujours en appeler à César et recevoir, passer devant la justice, espérer une justice pour ne jamais ne pas avoir rien à cacher. Et nous aussi, nous disons merci à l'État pour les protections, les libertés qu'elle offre. On voit ici, la vie de Paul a été sauvée à plusieurs reprises par les autorités romaines. Et ça, c'est bien. Merci Seigneur pour Félix, merci Seigneur pour Festus, parce qu'ils ont protégé Paul avec ses droits de citoyen. Alors nous aussi, nous disons merci Seigneur pour la laïcité, n'est-ce pas? Normalement, elle est en notre faveur, elle existe pour pouvoir faire ce que l'on fait ce matin ensemble. L'histoire et le bon sens montrent qu'une société est beaucoup plus forte quand l'État n'impose pas une religion, n'impose pas sa religion, que cela soit le catholicisme ou que ce soit l'athéisme. Il me semble que c'est là où nous en appelons à la laïcité. Il ne faut pas confondre séculier, athée, avec laïque. Le communisme du siècle dernier, c'était athée, c'était pas laïque, c'était athée, et on imposait l'athéisme à tout le monde. Et le résultat était catastrophique. Nous en appelons à la laïcité de protéger les droits et cette liberté d'expression, et on est très reconnaissant. Nous voulons rappeler que laïcité n'est pas un mot codé pour interdire Dieu, pour interdire le témoignage, pour interdire l'expression d'une conviction. Au contraire, la laïcité a été inventée, a été mise en place pour préserver le témoignage des uns et des autres. Donc nous en appelons à la laïcité et nous espérons qu'elle ne fonctionne pas avec un double standard. C'est ça que nous appelons, pas un double standard entre les uns et les autres. Parce que de plus en plus, il y a peut-être une confusion par rapport à ce que veut dire la laïcité. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est de célébrer la liberté d'expression et la diversité aussi longtemps que vous n'exprimez pas un avis différent. C'est un peu ça le problème. On est très pour la diversité et la liberté d'expression, mais taisez-vous dans certains cas. Alors, c'est un peu l'ambiance et la culture dans laquelle on baigne, mais je vous soumets le cas d'un événement qui fait rage aux États-Unis actuellement. Peut-être vous avez suivi ça. Mais il y a le PDG d'une chaîne de restaurants, un peu comme KFC ou McDo, c'est du poulet qu'ils vendent. Et le PDG d'une chaîne, dans une interview avec un journaliste, il a dit, oui, je crois à la définition biblique du mariage. Alors là, explosion. Donc plusieurs maires des grandes villes, les grandes villes connues aux États-Unis, plusieurs maires ont dit qu'ils allaient prendre des mesures pour empêcher ces restaurants-là, cette entreprise, de s'établir dans leur ville. Parce que c'est pas bien de dire ça. Alors là, plusieurs commençaient à réfléchir, même ceux qui ne partageaient pas le point de vue des chrétiens, en disant ça c'est quand même. Normalement, c'est pas ça. Un maire de ville ne peut pas empêcher une entreprise en fonction des convictions personnelles de la direction des PDG. Et toute la question de la liberté d'expression est revenue en plein jour. Mais de plus en plus, je pense que les chrétiens vont être appelés à vivre de telles expériences avec la définition de la laïcité qui a basculé en quelque sorte. Autrefois, ça voulait dire liberté d'expression, Maintenant, malheureusement, ça, souvent ça veut dire séculier, athée. Mais nous en appelons à César, nous en appelons à la laïcité de nous défendre notre expression pour le témoignage. Donc, première chose qu'il a fait, c'est qu'il en a appelé à César. Mais encore plus fort, je trouve, c'est qu'il a témoigné à César. C'est-à-dire, il en a appelé à César, mais son but premier, c'était d'appeler César à la repentance et à la foi. Je pense à Paul ici, pendant longtemps, il voulait aller à Rome pour évangéliser, il savait l'importance de cette grande ville, donc pendant longtemps, il voulait y aller, jusqu'à là, les circonstances l'ont empêché. Et bien, on a vu ce verset dans un chapitre précédent, il avait dit, il faut que je voie Rome, il faut que j'y aille un jour pour évangéliser. Et là, les circonstances l'empêchent, mais maintenant, il va pouvoir aller à Rome. En plus, il aura le voyage payé, il aura un logement de fonction et il va pouvoir causer avec César. Alors là, c'est pas mal. Donc vous voyez, par leurs accusations, par leurs interdictions, par leurs accusations d'activité criminelle, les Juifs qui voulaient arrêter son témoignage, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? Eh bien, ils ont simplement réussi à envoyer le meilleur évangéliste du monde à la capitale du monde pour évangéliser l'homme le plus puissant du monde. Et ça, Paul, c'était ça sa passion finalement. Donc, qu'on me donne mes droits de citoyen ou pas, je vais en profiter pour évangéliser même mes juges. Et c'est les promesses qu'il avait reçues du Seigneur déjà en Actes chapitre 9, lors de sa conversion. Dieu lui avait dit : Je t'ai choisi pour porter mon nom devant les rois, devant les grands. Et puis plus tard, chapitre 27, quand il est dans le voyage, on verra ça, il y a un naufrage et tout ça. On peut comprendre qu'il se demande ce qui se passe, mais dans une nuit, dans une vision, le Seigneur apparaît à Paul et dit, il faut que tu comparaisses devant César. Donc, t'inquiète pas, je vais te sortir de là parce que je veux que tu parles à César lui-même et que tu l'évangélises. Et ça, c'est un bon rappel pour nous. Les autorités ont besoin de salut aussi. Et on voit déjà ici dans le procès avec Agrippa, le roi Agrippa et Festus, on voit son courage et son désir, pas tant de s'acquitter, de se défendre, mais de leur offrir le salut. Parce qu'à la fin de sa défense, il dit, il s'adresse personnellement à Agrippa, « Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » Et Agrippa, normalement, il siège en juge. Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Donc Paul ici, et c'est ce qu'il va toujours faire, à un moment il se tourne vers ses juges et il leur dit maintenant il essaie de les persuader de devenir chrétien. C'est pas mal pour le témoignage. Et on voit que la motivation principale de Paul, c'est pas de sauver sa peau, mais de sauver les autres, d'offrir le salut aux autres. Et il dit ça, devant les petits et les grands, j'offre aux petits et aux grands. Je les appelle à la repentance, je les appelle à convertir à Dieu, je les appelle à découvrir le pardon de leurs péchés. Et voilà, je profite de mes liens pour le faire. Et ça, ce qui est fort chez Paul, il voulait bien porter des liens physiques s'il pouvait aider les autres à se libérer des liens spirituels. Et on voit dans tout son témoignage, sa défense, son langage, ses propos, que sa motivation, c'est pas reprendre la majorité, c'est pas de dominer sur les autres, c'est pas d'écraser les autres, c'est finalement d'aimer ceux qui se trouvent en face de lui, les petits et les grands, pour leur offrir le salut. Et je crois que cette motivation-là, oui, elle est au cœur du message chrétien, c'est ce que Christ a fait pour nous, et il a accepté de descendre pour nous offrir le salut, et tout ce qui témoigne de lui vont être marqués par ça, et avoir ce même genre de motivation, parce que je pense que les gens sont sensibles aux motivations, et ils reconnaissent, ils arrivent à discerner les motivations derrière le témoignage des uns des autres. Et peut-être c'est là où notre percée, notre plus fort témoignage sera, c'est dans ces motivations qui peuvent ressortir. Est-ce un crime, est-ce une faute pour l'aumônier protestante de l'hôpital de dire que Dieu vous bénisse accompagné d'une chorale chrétienne qui chante dans les chambres? On nous dit que oui. Parce que, vous savez, on est un pays laïque, donc on peut pas, un aumônier protestant, il ne peut pas aller de chambre en chambre en disant que Dieu vous bénisse, parce qu'après, l'imam va venir, il va vous dire à chacun que Allah vous soumette, ou qu'un athée vous pouvez passer, que le hasard vous évolue et vous guérisse. Et on dit, c'est pas bien, ça c'est pas laïque, donc on ne peut pas faire ça. La chose, et c'est là notre atout en tant que chrétien, vous n'allez pas voir les chorales musulmanes aller chanter auprès des chevets des patients, surtout des patients qui ne croient pas comme eux, pour leur apporter amour et gentillesse et bonté. Ça, je n'ai jamais vu. Mais l'histoire, dans toute l'histoire, les chrétiens constamment sont allés auprès des malades, auprès des pauvres, pour leur apporter amour et soin. Et c'est ça la force du témoignage. Donc les chrétiens ont accepté, quelque part, de perdre certaines libertés pour aimer davantage. Ça, c'est la force de notre témoignage. Vous savez ce que Paul faisait à Jérusalem quand il a été arrêté? Il apportait un don aux pauvres. Activité criminelle ou pas? Vous savez ce que Paul faisait sur le chemin de Damas? Voilà, il voulait, oui, il était rempli de meurtre, de pensées de meurtre, de jalousie, de haine pour arrêter ces chrétiens. Et là, Jésus l'a arrêté. Alors, la question c'est, qu'est-ce qu'on préfère, une société remplie de Paul ou de Saul? De Paul, qui apporte des dons aux pauvres et qui, par amour, témoigne de sa foi, ou des Saul, là, il faisait rien qui embêtait trop les Romains, mais voilà, c'est ces pensées de haine, de jalousie. Je crois que tout le monde préfère un monde rempli de Paul que de Saul. Et je pense que Dieu, parfois, il nous met dans des circonstances fâcheuses, peut-être ces liens comme Paul, pour que là, c'est là où notre témoignage chrétien va vraiment luire et se montrer. Ils peuvent interdire au corps médical de témoigner aux patients. C'est vrai. Mais c'est plus rare d'interdire aux patients de témoigner au corps médical. Et peut-être la solution de Dieu est là. Je pense à notre ami Jean-Jacques Tchelenchenko, en Pays Basque. En tant que pasteur, il n'a certainement pas le droit d'entrer dans les hôpitaux, de distribuer des traités à tous les patients et tout le corps médical. Parce que, pays laïque, ça c'est pas bien. En tant que patient, grand malade de cancer, là, il s'en prive pas. Et là, tout le monde en est touché. Donc, Paul, il en a appelé à César, oui, mais quand ça n'a pas marché, il a témoigné à César. Et c'est ça qu'il faut. Ensuite, j'aimerais rappeler que dans ce témoignage chrétien, dans cette situation parfois délicate de la Pax Romana, de la laïcité de nos jours en tout cas, il était censé recevoir justice de César. Il en a appelé à César, il a témoigné à César, et je rappelle tout simplement qu'il a été tué par César. Il a été mis à mort par le dit César. Le César auquel il a fait appel, c'était Néron. Alors, les premières années du règne des Nérons, c'était assez positive, en tout cas, il a fait des bonnes choses pour, on va dire, l'Empire romain. Et on pense que dans un premier temps, Paul a été libéré. Quand il était allé à Rome, on le trouve en attendant à la fin du livre des Actes, on le trouve en attendant son audience, son procès. Et il semble qu'il a été libéré cette fois-là. Mais ça n'a pas duré trop longtemps, il a été remis en prison, et là on sait qu'il a été exécuté. Et c'est ce qu'il dit, là, on comprend ça à la fin de 2 Timothée, c'est une de ses dernières correspondances, sa dernière lettre à Timothée, et il sait que le moment de son départ s'approche, il sait que c'est la fin, il est en prison, et il va dire ceci en 2 Timothée 4, 16 à 18, il dit « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. » Que cela ne le soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Ces versets sont touchants parce que, oui, il a fait appel à César. Mais dans ces versets, il dit, heureusement, César m'a assisté, César m'a fortifié, César, je pense qu'il va me délivrer de toute œuvre mauvaise. Non, on voit que dans ces versets, il ne compte pas trop sur César. Il fait appel à César pour ses droits de citoyen romain, mais il ne mise pas tous ses espoirs sur César. Il ne compte pas sur César, il dit « je compte sur le Seigneur ». César n'était pas tout son espoir, César n'était pas son maître, le Seigneur l'était. Et c'est ça qu'il a, c'était ça son plus fort témoignage. Donc rappelons-nous, la laïcité ne sera jamais notre sauveur, notre Seigneur, Christ seul l'est. À l'époque, c'est comme ça que fonctionnait l'Empire romain. Les citoyens romains devaient prononcer cette vœu de fidélité auprès de César. Et puis la phrase, c'était « Caesar curios », c'est-à-dire « César est Seigneur ». Et les chrétiens, ils ont toujours tout fait pour respecter l'autorité de César, pour rendre à César ce qui était César. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas faire, c'était rendre la seigneurie à César, et c'est là où souvent il passait exécuté parce qu'il refusait de dire Caesar, curios, César est Seigneur. C'est une leçon pour nous. Si l'État apprécie et reconnaît les évangéliques, tant mieux. On en appelle à la laïcité pour la liberté d'expression parce qu'on croit que c'est du bon sens, c'est sage pour un pays de fonctionner comme ça. Mais c'est pas ça notre seul espoir. Parce que sinon, on risque de devenir esclaves de ce qu'ils pensent de nous. Et c'est Paul qui a dit, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. S'il faut absolument recevoir le tapis rouge et le feu vert des autorités politiques et religieuses du monde, ça devient un esclavage. Il faut se demander si on est resté vraiment fidèle à Christ. Parce que Christ avait dit, si le monde m'a haï, ils vont vous haïr. Aussi longtemps que nous n'adoptons pas les mêmes idoles de la culture, c'est sûr qu'elle va nous rejeter. Et je trouve fort dans ces chapitres, on n'a pas tout lu, mais en chapitre 25 et 26, d'abord avec Festus, et puis quelques jours après, arrive le roi Agrippa et Bérénice, qui passent quelques temps avec Festus, et donc il est décidé qu'ensemble, ils vont écouter Paul pour savoir ce qu'il faut écrire à Rome. Voilà de quoi on l'accuse, voilà un peu son cas, et c'est toujours un peu flou pour Festus tout ça. Et donc il prévoit cette journée d'audience, et le verset 23, chapitre 25, le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans la salle d'audience avec les tribuns, les principaux de la ville, et Paul fut amené. D'un côté vous avez cette grande pompe des autorités, des dignitaires. D'un autre côté, vous avez le petit Paul, lié, enchaîné. Et je crois que Luc nous met devant cette scène, et on peut facilement imaginer, ce sont deux systèmes qui se heurtent. Paul enchaîné dans la bassesse, la pauvreté, et puis la grande pompe du monde. Et ces deux systèmes se heurtent, et c'est ça qui va toujours embêter Paul. C'est ça pour, on va, et les systèmes religieux, le judaïsme, et les systèmes séculiers, César, ils vont jamais pouvoir adopter ce chemin-là. Et on voit ici, il y a deux chemins. Il y a le chemin de Rome, avec toute sa grande pompe, et puis le chemin de la croix, le témoignage de Christ. Le chemin de Rome, c'est ce recherche de pouvoir, de pompe, pour se protéger, se défendre, se prouver. Et dans ce chemin-là, tous les coups sont permis. Et après, il y a le chemin de la croix, c'est l'humilité, la grâce, le sacrifice, le pardon, l'amour. Et on ne va jamais pouvoir réconcilier vraiment ces deux systèmes. L'un système est voué au jugement et à l'échec. L'autre système, le chemin de la croix, reçoit la bénédiction de Dieu. Et on peut essayer, mais on ne va jamais réussir à les réconcilier. Quand on parle du roi Agrippa, c'est Hérode Agrippa, il a été connu ainsi. Et cet Agrippa, on le connaît un peu, on le connaît par ses pères, ses grands-pères. parce que son arrière-grand-père, c'était Hérode le premier qui a massacré les bébés, les enfants, lors de la naissance de Jésus-Christ. Et puis, un de ses fils, donc c'était l'arrière-grand-oncle de Agrippa, c'était le Hérode qui a tué Jean-Baptiste. Et puis, le père de cet Agrippa, Hérode, c'est lui qui a tué l'apôtre Jacques. Et maintenant, lui, la génération suivante, il va devoir aussi choisir entre le chemin de la grande pompe et Rome et la gloire humaine, et puis le chemin de la croix. Et voilà, il va suivre ce que ses pères ont toujours fait et rejeter. Donc on va jamais trop s'attendre à César. C'est pas lui le Seigneur, c'est pas lui le Sauveur. Nous témoignons du chemin de Christ, et le chemin de Christ, c'est un chemin qui passe par la croix. C'est pour ça que ce mot témoin, c'est martyr en grec, parce que quantité de ces témoins chrétiens ont refusé ce chemin-là, et le seul autre qui leur a été présenté, c'était le chemin du martyr. Mais c'est dans ce martyr, dans ces moments-là, qu'ils ont porté le plus grand témoignage chrétien, le plus grand témoignage que finalement ce chemin de Rome... Voilà, ne conduit pas à la gloire. C'est ce chemin de renoncement, ce chemin qui suit Christ, c'est ça qui conduit à la véritable vie. Donc Paul, il en a appelé à César, il a témoigné à César, il a été tué par César, et puis j'aimerais juste rappeler aussi, un peu le dernier chapitre de l'histoire, c'est que Paul, il va siéger en juge de César, en tout cas avec Christ. Paul dit en 1 Corinthiens 6, verset 2, il parle aux saints, il parle aux chrétiens, il disait, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Christ est le juge suprême, et comme nous avons vu dans l'étude biblique du mardi soir, la fin des temps réserve un temps de jugement, et puis les saints vont s'asseoir en quelque sorte avec Christ sur les trônes pour... juger l'histoire du monde, les idées, les idéologies, les hommes. Il y a un juge au-dessus de César. Les saints jugeront le monde. Je ne dis pas ça par prétention, mais plutôt c'est du bon sens pour toute société. 2000 ans d'histoire nous ont appris une chose, c'est qu'il ne faut pas donner le pouvoir absolu à un homme. Ni un roi, ni un César, ni un pape, ni même à une idéologie comme la laïcité ou la liberté. Si on donne le pouvoir absolu à ces choses, c'est catastrophique. La meilleure manière, la seule manière, je dirais, de ne pas accorder le pouvoir absolu aux hommes, pour toutes les catastrophes que cela apporte, c'est de savoir qu'il existe un pouvoir absolu au-dessus des hommes, et c'est Dieu. Et sa justice, son jugement qui attend tout homme. Un jour, il jugera les hommes et les idées. Et Paul, dans un autre message dans le livre des Actes, il dit oui, Dieu a établi un homme pour juger. Et si vous voulez une preuve certaine que c'est lui qui est qualifié de juger, c'est que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et finalement, c'est ça au cœur du témoignage chrétien, c'est ça qu'on peut dire tout ça. Le témoignage chrétien revient principalement à affirmer la résurrection de Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est ce que Festus a cru comprendre. Il était nouveau, il découvrait tous les cas devant lui, puis ce cas de Paul. C'est un peu flou, toutes ces questions théologiques sur le judaïsme, mais ce qu'il a retenu dans le verset 19, qui dit à Agrippa, c'est que, ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière. Et apparemment, il s'agit d'un certain Jésus qui est mort et que Paul affirme être vivant. C'est ça son crime, apparemment, c'est qu'il y avait ce Jésus qui était mort et Paul affirme qu'il est vivant. Eh bien, au moins, il a compris que oui, c'est ça la chose, c'est ça le message, c'est ça le cœur de la chose, nous affirmons que Jésus est vivant. S'il est vivant, ça change tout. Si Jésus-Christ est ressuscité des morts, alors oui, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le César des Césars, il est le juge des juges, parce qu'il est ressuscité des morts. Et parce qu'il est ressuscité des morts, l'avenir de tout homme n'est pas un avenir laïque. L'avenir de tout homme, c'est une rencontre avec ce Jésus. C'est Jésus lui-même qui parlait de cet avenir de tout homme. Un jour, jugement dernier, on va séparer les brebis et les boucs. Et le critère du jugement, ce serait qu'avez-vous fait avec cet homme ressuscité, cet homme Jésus-Christ. Et puis concrètement, si on veut savoir, pour l'histoire des hommes et tous les hommes, si on veut savoir ce qu'ils ont fait de Jésus-Christ, concrètement, on va regarder qu'est-ce qu'ils ont fait des témoins de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait du peuple de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils en ont fait des chrétiens, des petits, comme l'apôtre Paul. Paul veut dire petit. Qu'est-ce qu'ils en ont fait de ces petits? Comment vous les avez reçus quand ils étaient notamment accusés, quand ils étaient en prison, quand ils étaient dans les liens? Qu'est-ce que vous, les juges, les maires, les tribuns, qu'est-ce que vous avez fait pour ces témoins de Jésus-Christ? Chaque maire, chaque juge, chaque dirigeant devra rendre compte de ça, finalement. Je termine avec ça, ce qui est fort dans le témoignage chrétien et dans le témoignage de Paul, vous savez, dans le chapitre 26, il redonne son témoignage. Troisième fois dans ce livre qu'on a le récit de la conversion de Paul. On a déjà étudié deux fois, on ne va pas y revenir sur tous les détails du chemin de Damas, mais dans son témoignage, Paul peut dire, vous savez, j'étais comme ça avant, j'étais comme vous avant. Moi, je voulais supprimer cette voie. C'est une menace à ma position, à ma gloire, à ma tranquillité, à tout ça. Donc j'étais prêt à tout faire pour les enlever. Moi-même, j'étais rempli de haine, de préjudice contre ces chrétiens. Donc Paul peut dire à ces autorités qui sont en train finalement de l'accuser à tort, il peut dire, ben, moi j'étais comme ça avant, j'accusais à tort les chrétiens avant, et puis le Seigneur m'a transformé. Le témoignage chrétien revient à dire, voilà, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, nous ne sommes pas meilleurs que nos autorités. Nous comprenons très bien ce qui anime leur cœur, parce que c'est les mêmes pensées qui animaient notre cœur, ces pensées d'orgueil, de se défendre, de toujours se donner le meilleur. Paul pouvait dire, oui, avant j'étais un fauteur de troubles, avant j'étais un méchant, avant j'étais un criminel, mais j'ai été gracié, j'ai été pardonné, c'est ça mon témoignage. Mes offenses ont été jugées et punies par la colère de Dieu à la croix. Donc, oui, on est en train de l'accuser de plein d'offenses, plein de crimes. En fait, oui, en tout cas dans ma vie avant Christ, j'en avais une vie remplie d'offenses et de crimes, mais c'est Christ qui les a payés. Et c'est ça, la force du témoignage chrétien de Dieu. J'étais comme ça avant, Dieu m'a transformé. Calvin aussi, il a écrit un traité d'évangélisation. Le livre de Luc, comme traité d'évangélisation, vous trouvez peut-être un peu long, Calvin, encore plus, le traité d'évangélisation qui est écrit, c'est devenu l'institution chrétienne. Mais ce traité d'évangélisation, c'était dédié, envoyé au roi de France, François Ier. Et si j'étais le roi de France, je me dis que j'irais, dans ce traité d'évangélisation, il raconte toute la foi chrétienne, tout ce qu'il croit, et puis la dernière partie, c'est justement sur le gouvernement civil. Et si j'étais roi, peut-être ce chapitre m'intéresserait. Mais en tout cas, voilà ce qu'il dit. C'est à la fin, mais sachant que le roi de France, là, est quand même pas très gentil avec les chrétiens. Et il dit, c'est pourquoi, là il parle un peu à tous les chrétiens, à tout le monde, c'est pourquoi si nous sommes cruellement persécutés par un prince inhumain, volé et pillé parce qu'il est avare ou prodigue, méprisé et mal protégé par un paresseux, si nous sommes même malmenés pour le nom de Dieu par un sacrilège et un incrédule, rappelons-nous d'abord les offenses que nous avons commises contre Dieu, qui sont sans doute punies par de tels fléaux. C'est quand même fort, il dit, rappelons-nous les offenses que nous avons commises contre Dieu, rappelons-nous que ces offenses ont été payées par le grand juge lui-même et en Jésus-Christ, et cette pensée-là nous donne de quoi témoigner, toujours avec patience, avec respect, avec douceur, envers tout homme qui le demande, que Dieu nous aide à rendre témoignage de notre société laïque, qui veut ou qui ne veut pas entendre, Dieu nous appelle à rayonner de sa lumière qui nous aide. Amen. Prions.